sociologue, elle est directrice de recherche au CNRS, directrice d'études à l'EHESS, au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Elle a reçu cette année la médaille d'argent du CNRS l'originalité et la qualité de son travail reconnue au niveau national et international. Elle a publié grand nombre d'ouvrages, à titre personnel, La guerre des écrivains, La responsabilité de l'écrivain, ces trois dernières années, Les écrivains et la politique en France, Peut-on dissocier l'œuvre de l'œuvre, Des mots qui tuent, La responsabilité de l'intellectuel en temps de crise. Elle a également co-dirigé une dizaine d'ouvrages, dont les contradictions de la globalisation éditoriale, Translatio, le marché de la traduction en France à l'heure de la mondialisation, et le best-seller, le dictionnaire international Bourdieu. Spécialiste de sociologie des intellectuels et de sociologie de la littérature dans une perspective globale, au croisement de ces deux domaines, qui d'autre que Gisèle Sapiro pour cette conférence inaugurale, écrivain polémiste et pour le colloque écrivain polémiste et essai polémique dans la littérature mondiale. Elle a généreusement accepté cette conférence, alors qu'elle en avait déjà trois autres keynote cette semaine. Donc un grand merci Gisèle, et je te laisse la parole.
Merci beaucoup Tristan et merci Céline de cette invitation. Et c'est vrai que le programme de ce colloque a l'air absolument passionnant. Et il se trouve que j'ai travaillé sur les polémistes d'un côté, sur le champ littéraire transnational de l'autre, mais en fait ces objets ne s'étaient pas croisés jusqu'à ce jour, sauf de façon très occasionnelle. Je vais donc tenter d'esquisser ici une réflexion très provisoire sur les conditions sociales et intellectuelles de la circulation dans le temps et dans l'espace des discours polémistes à partir de la France. Alors, pour comprendre les conditions d'une telle circulation, il faut d'une part comparer la configuration des rapports entre champ intellectuel, champ politique et champ médiatique, ainsi que la structure du champ de production idéologique qui se situe à l'intersection entre ces espaces, et d'autre part reconstituer les circuits et réseaux transnationaux, traduction, adaptation, réappropriation. Donc, ça, c'est ce qu'il faut faire, évidemment. Après, on est un peu contraint par l'état des connaissances. Je vais commencer par un rappel de l'évolution du genre pamphlétaire en France et de la situation des polémistes dans le champ intellectuel et plus spécifiquement littéraire, tout en montrant pourquoi cette histoire gagnerait à être insérée dans une approche transnationale. Puis je me concentrerai sur les appropriations du genre par les auteurs d'extrême droite contemporains, en particulier Renaud Camus, Richard Millet et Éric Zemmour. Alors, les polémistes situent leur discours hors de l'espace des possibles du champ politique de leur temps et hors de l'espace des discours autorisés, voire légaux, en défiant les limites de la liberté d'expression. Ils transgressent les censures propres au débat de l'espace public et les normes du débat lettré. Marc Angenot a étudié les figures rhétoriques de la parole pamphlétaire. Elle met en scène un personnage solitaire, non mandaté, qui fait montre de courage intellectuel en élevant sa voix pour crier son indignation contre un scandale, la vérité contre un mensonge institué. À la différence des écrivains et intellectuels établis, dont le discours est autorisé par des institutions, comme les académiciens, membres de l'Académie française, ou les universitaires, ou par un groupe doté d'un capital de reconnaissance, le pamphlétaire tire, et le c'est souvent plus un homme qu'une femme, tire sa légitimité de son isolement et des risques objectifs qu'il prend, preuve de sa bonne foi, en combattant une idéologie dominante ou ses représentants. La rupture avec les conventions langagières et discursives du discours policier est la marque de son anticonformisme et assigne à cette parole un potentiel subversif qui peut se révéler gratifiant auprès du public. Si le pamphlet en France a une longue histoire qui remonte au moins à la Ligue, puis aux Mazarinades, dont Christian Jouhaud avait montré qu'il s'agit d'une littérature d'action, il se caractérisait jusqu'au milieu du XIXe siècle par sa forme courte qui la rendait accessible au plus grand nombre, d'où sa dangerosité aux yeux des pouvoirs en place, État et Église, comme en témoigne encore le procès de Paul-Louis Courier en 1821. Ce dernier aura contribué à littérariser le pamphlet et à légitimer la figure de pamphlétaire, emprunté aussi bien aux philosophes, Rousseau en particulier, qu'aux auteurs anglais, en particulier Jonathan Swift, qui est un des modèles de Courier, La figure héroïque de l'écrivain courageux combattant de manière désintéressée pour la vérité qu'il revendique à une époque où le régime de liberté de presse commence à peine à s'esquisser avec la loi de 1819, se construit par contraste avec celle de l'homme de lettres qui flatte le pouvoir, symbolisé par la figure du bouffon ou du fou du roi, ou du courtisan. Alors que ce dernier met sa plume au service des puissants de l'heure en échange de gratifications temporelles, l'écrivain pamphlétaire n'est au contraire guidé que par sa mission qui est d'éclairer l'opinion, de faire connaître la vérité, ce qui lui vaut souvent d'être persécuté par le pouvoir. Plus qu'un droit, dire la vérité constitue pour ces écrivains un devoir, lequel fonde l'éthique de responsabilité de l'écrivain en régime parlementaire. La vérité abolit les superstitions, démasque les impostures, combat les tyrannies. Il faut la faire connaître au plus grand nombre, la faire triompher. Telle est la mission de l'écrivain. Et dans son pamphlet des pamphlets, Courrier met en scène son ami Bickerstaff, un des pseudonymes de Jonathan Swift, qui lui aurait dit « Ce n'est pas un droit, c'est un devoir, étroite obligation de quiconque a une pensée de la produire et mettre au jour pour le bien commun. La vérité est toute à tous, car si votre pensée est bonne, on en profite, mauvaise, on la corrige et l'on profite encore. » L'écrivain donc, qui dit la vérité a en outre une fonction rédemptrice, selon Armand Carrel, qui, lorsqu'il évoque Paul-Louis Courrier, il absout sa génération face à la postérité si jamais on accuse celle-ci d'être restée muette spectatrice de toutes les hontes de la France depuis 15 ans. Fin de citation. Donc le pamphlétaire apparaît à cette époque comme le prédicateur et le prophète des temps modernes. Avec l'avènement de la Troisième République, le pamphlet change de camp tout en demeurant aux marges du champ politique. Il passe du côté des anti-républicains, d'un côté, et des socialistes et anarchistes, de l'autre. Profitant de la grande loi républicaine de 1881 sur la liberté de presse, les pamphlétaires participent, comme l'a montré Cédric Passard, à la politisation de l'espace public. On peut dire que ce processus est aussi lié à la professionnalisation du champ politique qui exclut les intellectuels de sa sphère. Le pamphlet change aussi de format pour devenir l'épais opus qui illustre ceux de Léon Blois, qui en fait un genre littéraire, et les 1200 pages de la France juive d'Édouard Drumont, qui en révèle tout le potentiel lucratif avec ses 62 000 exemplaires vendus la première année. Le livre paraît l'année même en traduction allemande, Das verjudete Frankreich, Versuch einer Tagesgeschichte, à Berlin, chez Deubner. Il assure à Drumont un renom dans les cercles antisémites. Drumont va ainsi préfacer un livre du prêtre anti-juif August Rolling, intitulé Talmud Jude, qui était en fait un plagiat d'un livre de Johann Eisenmenger, paru en 1700 en allemand sous le titre Entdecktes Judentum, l'essence juive. Livre qui fut réédité 7 fois et se vendit à des centaines de milliers d'exemplaires et qui valut à son auteur une chaire d'études bibliques à l'université germanique de l'Ancien Testament à Prague en 1876. Rowling se constitua ensuite en expert dans les procès contre les Juifs accusés de meurtre rituel. Alors vous voyez qu'on est ici clairement hors du champ littéraire transnational qui est en train de se former. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réédition récente du pamphlet de Drumont par un éditeur politique, Alain Soral, dans la maison Contre-Culture, qui a aussi réédité Le salut par les Juifs de Léon Blois en 2013, donc les deux, tous deux d'ailleurs partiellement censurés à leur parution. Si dans les années 30, Bernanos s'inscrira dans la tradition littéraire du catholique Blois, Céline s'inspire aussi des pamphlets de Drumont, ainsi que des écrits antisémites qui arrivent d'Allemagne en masse à cette époque, comme l'a montré Ralph Shaw. Bagatelle pour un massacre atteint 75 000 exemplaires, beaucoup plus que ses romans. Le décret-loi Marchandeau de 1939, qui interdit les discours haineux, met un terme à cette explosion de discours antisémites avant d'être abrogé l'année suivante par le régime de Vichy. Et ce décret-loi Marchandeau, c'est l'antécédent en fait, de la loi de 1972 qui élargit la citation à la haine raciale. Cependant, la figure de l'écrivain polémiste qui domine la Troisième République, c'est le monarchiste Charles Maurras, secondé à l'Action française par un autre pamphlétaire, Léon Daudet. à propos duquel François Mauriac a écrit que l'invective prend toujours sa source dans un cimetière d'œuvres avortées. Ces deux auteurs sont la référence de la plupart des polémistes de l'époque. Tous deux s'inscrivent dans le champ politique. Daudet a même été député de la Seine à l'Assemblée de 1919 à 1925. Maurras, lui, demeure dans la sphère extra-parlementaire. Ce sont aussi des journalistes. Depuis le début du XIXe siècle, la presse est devenue le lieu privilégié de la parole pamphlétaire pour diffuser des messages politiques au plus grand nombre, ce nombre s'étant fortement élargi sous la Troisième République à la faveur de l'alphabétisation d'un côté et de la libéralisation de la presse de l'autre. Alors, ces auteurs se partagent entre l'écriture d'ouvrages littéraires et politiques et le journalisme d'opinion dans lequel ils manient au quotidien l'invective, la dénonciation, la stigmatisation des Juifs notamment, voire les appels au meurtre. Maurras a ainsi traité Léon Blum de détritus humains. Et je continue la citation, « un homme a fusillé, même dans le dos ». Provocation qui a conduit à l'attaque physique contre Blum en février 1936 et a valu au leader d'Action française d'être condamné à 8 mois de prison et incarcéré. L'influence de Maurras dépasse le cadre politique et journalistique ainsi que les frontières nationales. Il trouve un porte-parole même aux États-Unis en la personne que Céline a citée, d'Irving Babbitt, réactionnaire sceptique qui importe la querelle entre classicisme et romantisme aux États-Unis. Son livre « Rousseau and Romanticism », paru en 1919, fait remonter les origines des tendances artistiques modernes à la révolte romantique, selon une argumentation qui rappelle beaucoup la thèse de Pierre Lasserre, « Le romantisme français ». Alors que la littérature classique s'intéresse aux types les plus représentatifs, le romantisme s'intéresse à l'étrangeté, l'inattendu, l'unique, l'extrême. En privilégiant la subjectivité et l'éphémère plutôt que l'impersonnalité et l'universel, il représente donc un véritable danger pour l'ordre social. Comme ses homologues français, mais sans en avoir le même impact, Babbitt mobilise des arguments contre le romantisme pour condamner la littérature moderne, qui, selon lui, a encouragé le narcissisme et le laxisme moral. Cette vision du monde va fonder les attaques de Wyndham Lewis contre Joyce et la levée de boucliers des New Humanists contre le modernisme dans les années 20. En France, Maurras aura formé toute une génération de polémistes, dont les plus tristement célèbres sont Robert Brasillach et Lucien Rebatté, qui s'éloignent de leur maître après le 6 février 1934 pour s'orienter vers le fascisme. Dans La guerre des écrivains, j'avais analysé la rhétorique de ces polémistes sous l'occupation. Ils tentaient de se faire passer pour une avant-garde en se réclamant de Céline, qu'ils érigeaient en prophète, et en voulant développer une critique fasciste. J'ai montré l'hétéronomie de ce discours qui réduit le jugement esthétique au social, voire au biologique. Ainsi, Lucien Rebatté, dans Les Décombres, recours pour attaquer Mauriac à la juxtaposition du registre religieux et du registre scatologique et sexuel. Je ne lirai pas la citation, je vous laisse la découvrir. Alors, dans les écrivains et la politique, j'ai systématisé l'analyse des rapports entre position et prise de position, en différenciant les modes d'intervention des polémistes de celles des autres pôles du champ littéraire, en croisant deux axes, dominant-dominé et autonome-hétéronome. Donc lorsqu'on va du pôle dominant au pôle dominé, le discours tend à se politiser, mais selon des formes plus ou moins hétéronomes, alors que les polémistes subordonnent le jugement critique aux idéologies qu'ils défendent, les avant-gardes font de l'innovation esthétique une arme politique. À l'inverse, au pôle dominant, les discours tendent à se dépolitiser. La politique est euphémisée sous la forme de la morale au pôle des notables et de l'esthétique au pôle des esthètes. Les écrivains d'extrême droite sont plus nombreux au pôle des polémistes, même si on en trouve au pôle des notables, comme les académiciens Abel Bonnard ou Abel Hermant, ou au pôle esthète, Drieu La Rochelle, Monterland. Et j'en ai pas trouvé à l'avant-garde, hein, le seul qui aurait pu être situé de ce côté est Céline, mais en fait quand il devient pamphlétaire, il cesse d'être un écrivain d'avant-garde pour se ranger dans le camp des polémistes. Et ça peut aussi s'expliquer par le fait que le fascisme n'est plus une avant-garde politique quand il arrive en France comme il l'était au temps du futurisme, hein, c'est déjà un régime très, très établi, très institué. Voilà. En tout cas, je voudrais rappeler qu'il s'agit de types idéaux qu'il ne faut pas réifier et qui fonctionnent de manière relationnelle. Les écrivains peuvent en outre évoluer dans le temps entre ces pôles ou se situer au même moment entre différents pôles. Alors, exemple d'évolution, c'est Maurras, polémiste, qui se notabilise après son entrée à l'Académie française en 1938, qui va devenir en 40 le conseiller de Pétain sous l'occupation. Il ne critique plus le gouvernement en place, alors qu'il passait son temps à critiquer le gouvernement. Il ne dit qu'il ne parle plus de politique étrangère, ce qui veut dire, en gros, qu'il ne parle pas des Allemands qui occupent la France. Par contre, il ne cesse de dénoncer les gaullistes et les résistants et d'appeler à l'exécution d'otages et de stigmatiser les Juifs au moment où ils sont raflés et déportés. Donc il est clairement entre ces deux modèles, il reste polémiste d'un côté tout en se notabilisant de l'autre. Alors ce modèle analytique pourrait servir de cadre comparatif sans plaquer ces figures bien sûr, mais en repartant des principes de structuration du champ littéraire. Par exemple, Ernst Jünger, c'est un équivalent des esthètes dans le champ littéraire allemand. Dans un tout autre style, et peut-être entre avant-garde et esthète, on peut citer le poète Ezra Pound, un des chefs de file des mouvements modernistes des années 20 dans le champ littéraire états-unien, qu'il a quitté pour l'Italie fasciste, dont il est devenu un thuriféraire et dont il fait la propagande dans des émissions radiophoniques. Ce n'est pas un hasard si les polémistes sont moins connus d'un pays à l'autre. Cela s'explique par leur position dominée et très ancrée dans l'espace médiatique national et dans l'ici et maintenant, par opposition au discours généraliste de l'essai qui circule plus aisément. Il est significatif que l'occupation allemande ait offert une opportunité pour ces polémistes français de conquérir des positions dominantes. Certains ont même bénéficié de la promotion exceptionnelle de traduction en allemand, qui était réservée à quelques-uns. Et certains ont été invités en 1941 au Congrès international des écrivains à Weimar, qui rassemble les écrivains européens à l'initiative de Goebbels, lequel le conçoit comme un anti-pen club, selon Frank-Rutger Hausmann. Pierre Drieux-Larochelle, Marcel Jouhandeau, Robert Brasillach, Ramon Fernandez et Jacques Chardon ont accepté l'invitation. Comme on le voit cependant, même dans un cadre aussi hétéronome, ce sont plutôt les esthètes parmi ces écrivains fascisants ou fascistes et ceux qui se situent entre ce pôle et celui des polémistes comme Brasillach qui sont conviés car ils ont plus de capital symbolique. Alors, ceci suggère qu'on... Ah, pardon, j'en avais oublié. Ceci suggère aussi qu'on peut différencier les modes d'internationalisation à ces différents pôles du champ littéraire. Et donc, ça, c'est une proposition que je fais qui est évidemment à tester empiriquement. Mais en tout cas, là, sur le champ français de cette époque, ça fonctionne assez bien. Donc, si ce congrès de Weimar est hétéronome, comme le sont les congrès internationaux d'écrivains communistes, par exemple, ils adoptent le modèle des organisations les plus autonomes, comme le Pen Club, et y attirent les écrivains les plus dotés en capital symbolique au sein du champ littéraire, qui se recrutent donc souvent au pôle des esthètes. Alors, on peut évoquer d'autres lieux de rencontre autonomes, comme dans l'entre-deux-guerres, Cerisy-Pontigny. Là, je parle des écrivains du pôle de la droite radicale, mais évidemment, ce modèle concerne l'ensemble du champ littéraire. À ce pôle, donc, esthète, les revues servent aussi à introduire des auteurs étrangers, à l'instar de la Nouvelle Revue française, qui est reprise sous l'occupation par l'écrivain fasciste Drieux-Larochelle, avec pour mission d'en faire une vitrine chic de la collaboration franco-allemande. Et c'est pourquoi, contrairement au ton polémique que Drieux voulait donner à la revue au départ, hein, ça a été retrouvé dans les archives, il y avait un projet d'édito qui était hargneux, et en fait, l'ambassade de l'Allemagne lui a fait revoir sa copie, il a dit non, c'est pas du tout ce qu'on attend, pour adopter un ton beaucoup plus distancié, esthète, car il s'agissait de normaliser la situation d'occupation. Drieux doit aussi mettre en œuvre la politique de propagande nazie qui vise à promouvoir la littérature allemande en France. Et donc le travail d'euphémisation esthète est ici paradoxalement imposé par des instances politiques et à des fins politiques. Alors j'ai traité de ce paradoxe dans la guerre des écrivains. Les notables ont des modes d'internationalisation plus mondains ou académiques, correspondants étrangers d'académie, réseaux diplomatiques, comme par exemple le très officiel Comité France-Amérique, fondé en 1909 par le diplomate et académicien Gabriel Anoto, afin de favoriser le rapprochement entre les deux peuples, et où siégeaient près de la moitié des immortels auprès d'autres notables et de représentants officiels du gouvernement de Vichy, tel Lucien Romier. Alors ce comité était devenu un organe de propagande du régime de Vichy sous l'occupation. Il compte en 1942 des écrivains et critiques de l'Académie française, Henri Bordeaux, André Chaumet, Maurice Donnet, Georges Duhamel, Paul Valéry, et puis d'autres écrivains qui ne font pas partie de l'Académie, mais qui sont académisables, on pourrait dire, Giraudoux et Paul Morand. Et des ambassadeurs de France. Donc, vous voyez tous, ils ont des rapports avec la diplomatie, plus ou moins. D'autres personnalités du monde politique, économique et intellectuel. De 40 à 41, le Comité France-Amérique consacre 3 cahiers de politique étrangère parus en version anglaise et espagnole et 4 cahiers de la politique nationale à des publications officielles du maréchal Pétain sur l'armistice, sur le nouveau régime, sur l'éducation nationale, sur la reconstruction de la France. Dans cette deuxième série figure également l'essai Le paysan français de l'écrivain Henri Pourrat, lauréat du prix Goncourt 41. C'était une idée du maréchal Pétain que le Goncourt lui soit attribué. Il avait fortement recommandé auteur à René Benjamin. Donc là, vous voyez qu'à ce pôle des notables, on a une forte intrication du champ littéraire et du champ politique officiel, diplomatique, du point de vue des réseaux de l'internationalisation. Les avant-gardes qui contestent les instances de consécration nationale s'inscrivent, elles, d'emblée dans des mouvements artistiques transnationaux, à l'instar du futurisme, du dada, du surréalisme ou du situationnisme. Quant aux polémistes, ils sont, comme je le disais, les plus attachés aux cadres nationaux, par la presse notamment, et c'est par les réseaux politiques qu'ils s'internationalisent de manière idéale, typique. Et je vais m'y attarder pour montrer la formation des internationales fascistes d'après-guerre sous la bannière européenne, dans la tradition de la construction européenne sous l'égide d'une Allemagne nazie dans les années 40. Donc le réseau international des écrivains fascistes qui se reconstitue après la guerre aux marges de la reconstruction européenne, avec le congrès de Malmö de 1951, qui avait pour objectif de réunir les droites radicales européennes sur un programme commun dans un mouvement social européen en vue des élections européennes. Ce congrès donc avait été préparé lors d'une rencontre à Rome l'année précédente par Maurice Bardèche, donc beau-frère de Brasillac, Oswald Mosley, fondateur en 1932 de l'Union britannique des fascistes, Per Engdahl, leader du Nyhetsvenska Rörelsen, le NSR suédois, Karl-Heinz Priester, ancien leader de la Hitlerjugend, ancien SS, animateur de plusieurs amicales d'anciens nazis, fondateur de la revue Nation Europa, membre du cercle Werner Naumann, ancien collaborateur de Goebbels, qui était Priester, l'éditeur de Bardèche en allemand. Et il y a aussi Horia Sima de la garde de fer roumaine. Et donc, Bardèche va lancer l'année suivante la revue Défense de l'Occident, qui sera la revue du mouvement jusqu'à sa disparition en 1958, mais qui va survivre à ce mouvement et sera dirigée de fait par le négationniste François Duprat, qui jouera un rôle clé dans l'articulation entre antisémitisme, antisionisme et anticommunisme, tout en œuvrant à la réhabilitation du fascisme avec sa revue d'histoire des fascismes publiée entre 1972 et 1977. La scission au sein du mouvement social européen à la fin des années 40 provient du néo-nazi René Binet, un Français ancien Waffen-SS qui développe dès 1946-1947 l'idée d'un remplacement de la population européenne par l'immigration dans les colonnes du Combattant européen, donc ancien journal collaborationniste de la Légion des volontaires français contre le communisme fondé par Marc Augier en 1942, qu'il a repris en 1946. Selon Binet, ce sont les Juifs qui cherchent à détruire l'Europe en y faisant venir des populations venues d'autres continent. Il développe cette idée dans sa théorie du racisme, ouvrage paru en 50, en désaccord avec la mouvance de Bardèche, qu'il ne trouve pas assez raciste. Il fonde peu après, à Zurich, avec le théoricien raciste et militant négationniste suisse Gaston Armand Amodrus, auteur en 49 d'un livre intitulé « Ubu justicier au premier procès de Nuremberg », qui met en doute le génocide des Juifs, et avec le nazi suisse Erwin Vollenweider, futur fondateur du Parti populaire suisse, donc un mouvement plus radical. Il fonde, avec ces deux autres, un mouvement plus radical que le mouvement social européen. C'est le Nouvel Ordre européen, ouvertement raciste, pan-européen, et qui prône la décolonisation comme principe séparatiste. D'où la rupture avec Bardèche, parce que Bardèche voulait l'Algérie française, bien sûr. Voilà. Alors, ce mouvement organise des congrès à Paris en mai 52, à Hanovre en 54, à Lausanne en 56, à Milan en 65, à Barcelone en 69. Alors, le mouvement décline vers 1980, mais Amaud Druze continue à publier son organe, Courrier du continent, qui est repris en 2012 par le négationniste René-Louis Berclard. Quant au mouvement social européen, il disparaît suite à ses divisions, mais subsiste dans les années 60 un réseau informel autour de revues. Donc, j'ai mentionné Défense de l'Occident. Il y a aussi la revue Europe Action, animée par Dominique Venner, Gilles Fournier et Jean Mabir. Ils sont en contact étroit avec le centre Ordine Nuovo, lié au mouvement politique du même nom en Italie, et proche du philosophe traditionnaliste Julius Evola, qui traduit des articles publiés par ces revues. Donc, le centre traduit des articles du français hein, de Défense de l'Occident et d'Europe Action. Comme l'a montré Pauline Picot, si sa résonance reste limitée à quelques milliers d'adhérents, hein, le tirage des revues varie entre 5 et 10 000 exemplaires, cette mouvance constitue, je cite, de véritables foyers de réflexion et de théorisation idéologique dans les années 60, substituant donc au discours antisémite jusque-là prédominant dans ces cercles un discours raciste sur fond de décolonisation. Alors, a collaboré à ces deux revues Alain de Benoît, un des fondateurs du GRES, le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, et fondateur de la Nouvelle Droite, donc directeur des revues Nouvelle École, fondée en 68, Éléments en 73 et Crisis en 88, qui prône alors un racisme européen, racisme biologique qu'il transformera par la suite en racisme culturel ou ethno-différentialiste, dans le cadre d'une stratégie qui vise à légitimer et rendre respectables les idées d'extrême droite, comme l'analyse Ramzi Guechoian. Il œuvre aussi à réhabiliter des écrivains d'extrême droite comme Junger. Il a consacré un livre à Junger chez Via Romana et il parle notamment de la relation entre Junger et Drieu La Rochelle. Et il a aussi une stratégie d'internationalisation. La nouvelle droite italienne s'est formée en 1974 par les contacts avec son homologue français et lance une version italienne d'Éléments en 1978. Il a invité à siéger dans le comité de patronage de Nouvelle École Armin Möller, ancien secrétaire d'Ernst Junger, théoricien de la révolution conservatrice en allemande et de la Neue Rechte. Selon Guechoian, Alain de Benoît serait un des intellectuels français les plus traduits aujourd'hui par des éditeurs, et il les traduit surtout par des éditeurs d'extrême droite. Alors se créent aussi des maisons d'édition comme Edizioni d'Art, fondée en 1963 en Italie par Franco Freda, juriste et essayiste traditionnaliste et national révolutionnaire qui se réclame d'Evola et qui est proche d'Ordine Nuovo, art étant un terme d'origine indo-européenne exprimant la vigueur physique et morale, aristocratie donc en grec. Et y paraissent des livres de Gobineau et de Spengler, entre autres classiques, et des ouvrages idéologiques récents comme celui de Massimo Pacilli, L'invasione, podromi di una eliminazione etnica. Il existe des éditions d'art en français aussi, encore actives à ce jour, et qui ont publié dans ces trois dernières années une anthologie de Michel Schneider intitulée « Principes de l'action fasciste, essai de synthèse pour un néo-fascisme » avec des thèses de José Antonio Primo de Rivera, Robert Brasillach et Pierre Drieu La Rochelle, un recueil de textes d'Oswald Mosley intitulé « Du fascisme au nationalisme européen » en 2019, et une traduction de son livre de 47 « L'alternative », et puis des textes de Julius Evola, donc théoricien italien de l'élitisme traditionnaliste, qui se réfère à une tradition ario-nordique, promouvant un aristocratisme mâle contre le principe féminin incarné par la démocratie, et qui est devenu après la guerre une référence de la nouvelle droite italienne, française et états-unienne, ainsi que des milieux néofascistes en Europe et aux États-Unis. Et publie encore Alexandre Douguin, le théoricien et promoteur de l'eurasisme, qui est un des inspirateurs de la nouvelle droite en Russie, un des maîtres de Poutine aussi. Voilà, donc ces mouvements qui font circuler les essais polémiques des écrivains français des années 30 se situent, comme vous le voyez bien, hors du champ politique et hors du champ littéraire, aux marges du champ de production idéologique et du champ éditorial. Alors, pourquoi aux marges ? comme je l'avais montré dans la quatrième partie de La responsabilité de l'écrivain, qui est ce qui est reparu en poche l'an dernier sous le titre Des mots qui tuent, avec une préface et puis des annexes un peu revues, enfin différents, cette figure du polémiste a été discréditée en France et sans doute ailleurs aussi à la Libération lors des procès de l'épuration qui en ont fait des figures de traîtres irresponsables. Et alors que la presse d'information d'origine états-unienne, introduite en France dès le Second Empire, s'imposait définitivement contre la presse d'opinion littéraire et politique. Alors l'une des questions qui se posait dans ces procès était de savoir si ces polémistes avaient reçu de l'argent de l'étranger, ce qui aurait constitué la preuve de leur traîtrise et remis en cause évidemment leur désintéressement. Mais bon, ça n'a pas pu être prouvé. Concernant la responsabilité, l'hospitalisation d'Ezra Pound en hôpital psychiatrique à l'issue de son procès en trahison constitue le cas limite de déni de responsabilité, le dossier ayant justifié l'internement et d'ailleurs aujourd'hui contesté sur le plan médical. Il en va de même pour le Norvégien Knut Hamsun, prix Nobel de littérature, pro-nazi convaincu, interné en hôpital psychiatrique après la guerre. On n'a pas d'exemple en France, mais comme je l'ai montré dans Des mots qui tuent, des arguments en ce sens ont été invoqués lors des procès par la défense, remettant en cause donc l'image de ces polémistes comme des acteurs rationnels et des écrivains responsables. Donc, par exemple, dans le cas de Rebatté, son éditeur, Robert de Noël, interrogé lors de l'instruction, a mis sa violence verbale, son antisémitisme, sa germanophilie sur le compte d'un fourvoiement dû à un déséquilibre, un caractère hypersensible qui le rendait sans doute pathologiquement violent par moments. Aux yeux de son ancien camarade de rédaction, Thierry Molnier également, Rebatté était, à la différence d'autres collaborateurs de l'équipe de Je suis partout, je cite, « un garçon sincère mais hyper nerveux, peut-être même violent sous l'effet de la boisson ». De même, lors du procès Céline, qui se tint par contumace, le commissaire du gouvernement suggéra que son cas relevait de la psychiatrie. Il lui semblait impossible d'expliquer autrement que par les suites d'une trépanation, je cite, l'antimilitarisme du voyage et le militarisme des beaux draps. Sa source était sans doute les observations, parce que aucun des témoins n'évoque une pathologie quelconque de Céline dans le procès. Il y a seulement un témoin qui suggère que voilà, qu'il pourrait être un peu dérangé, mais en fait la source du procureur était du commissaire du gouvernement était sans doute les observations de Milton Hindus, professeur à l'université de Chicago, qui avait passé 3 semaines auprès de Céline à Copenhague durant l'été 48 et qui publia le fruit de ses observations en février 50 à l'approche du procès sous le titre The Crippled Giant. Je cite, il a une plaque d'acier dans le crâne là où il fut trépané et des bruits dans le cerveau que lui seul peut entendre. Donc c'est ça qu'il a noté, croyant évidemment Céline sur parole, alors que Céline n'était pas du tout trépanée. Les extraits parus dans Combat, le surlendemain du procès, accréditèrent l'idée que cet homme aux cheveux longs de barde, hein, je cite, qui ressemblait à, je cite, un chien hirsute inexplicablement blessé, était, je cite, plus que ma boule, comme le pensait Gide, il était complètement fou. Le thème de la folie de Céline a permis la dissociation de l'œuvre littéraire de l'écrivain qui commence à être réédité à partir du début des années 50 par Gallimard. Gallimard a récupéré le fonds de Noël après le décès de l'assassinat de Robert de Noël. Et dissociation donc entre l'œuvre littéraire et les pamphlets antisémites du polémiste dont Céline avait réinterdit la réédition. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas réédités. C'est cette interdiction que Gallimard était parvenu à faire lever auprès de la veuve de Céline avant son décès par l'intermédiaire de son avocat, parce que Gallimard voulait rééditer les pamphlets, voyant qu'ils étaient déjà réédités au Québec, où ils étaient tombés dans le domaine public, dont la durée est plus courte qu'en France. Mais Gallimard a finalement abandonné ce projet devant les arguments qui lui ont été opposés dans le débat public que cette affaire a suscité. Reste que le thème de la folie Céline, qui serait la contrepartie de son génie, selon la conception romantique du créateur, persiste à ce jour en France comme à l'étranger. Par exemple, en 2017, la chaîne belge RTBF titrait une émission consacrée à Céline, je cite, « un grand écrivain en dépit de la folie antisémite ». Alors, outre ce discrédit jeté sur la figure du polémiste, ce sont les changements survenus dans le champ de production idéologique, le champ du pouvoir et le champ intellectuel qui expliquent cette marginalisation. Je l'ai développé pour la France dans l'épilogue des écrivains et la politique. Je vais juste en rappeler brièvement les grandes lignes pour pouvoir venir plus rapidement sur le contemporain. Donc d'abord la transformation du champ de production idéologique depuis l'après-guerre, délégitimation de la droite radicale après la guerre, qui renaît pendant la guerre d'Algérie, délégitimation du Parti communiste qui occupait une position centrale au sein de la gauche radicale et montée de la gauche anticommuniste, nouvelle droite intellectuelle conservatrice qui se forme, se rassemble contre le communisme après la publication de la traduction française de l'archipel du goulag de Solzhenitsyn en 74, lancement en 78 de la revue Commentaire par Raymond Aron, et elle est inspirée de la revue néoconservatrice américaine Commentary. 77-78, on a l'apparition des intellectuels médiatiques avec les nouveaux philosophes, 80 la mort de Sartre, puis l'avènement du Parti socialiste au pouvoir qui contribue à une certaine démobilisation de la gauche intellectuelle et à la marginalisation du marxisme. Et puis dans les années 80, la gauche va se diviser autour du néolibéralisme. Alors il y a des transformations du champ de pouvoir, alors évidemment très, très rapidement, la montée du pouvoir technocratique, la clôture du champ politique, surtout dans les années 70, l'impact accru des médias dans le champ intellectuel et politique, le tournant néolibéral et la mondialisation donc à partir du début des années 80. Et puis il y a les transformations propres au champ intellectuel, division du travail d'expertise et montée des experts qui donc marginalisent la figure de l'écrivain qui incarnait l'intellectuel jusque-là, institutionnalisation universitaire des sciences humaines et sociales, professionnalisation du journalisme et délégitimation de la figure de l'écrivain comme intellectuel total. Le modèle sartrien, hein, Foucault élabore la figure de l'intellectuel spécifique, qui est une sorte de contre-expert, on pourrait dire. Et puis l'anti-autoritarisme, en mai 68, remet en cause la figure de l'intellectuel universel. Donc, dans toute la marginalisation des polémistes, en résultat de toute cette évolution, mais ils réapparaissent dans l'espace public français des années 2000. Et cette réapparition est liée à une conjoncture de repolitisation du champ intellectuel et de droitisation de l'espace médiatique. Alors, ceux qui s'inscrivent d'une façon ou d'une autre dans le champ littéraire, parmi ces polémistes, hein, il n'y a pas que des écrivains, des littéraires, mais ceux qui s'inscrivent dans le champ littéraire sont à droite, hein, sont des polémistes de la droite radicale. Alors l'idéologie dominante à laquelle cette droite se confronte désormais est la philosophie des droits humains, qui comprend l'antiracisme, l'égalité homme-femme et leurs attaques répétées et ouvertes contre ces principes qui rassemblent la plupart d'entre eux, par-delà les divergences, les exclut de la compétition légitime au sein du champ politique, encore que... on est peut-être à un moment de bascule. Je pense évidemment à la candidature de Zemmour à la présidence. Alors, cependant, le discours culturaliste, essentialiste des intellectuels de la droite radicale, qui apporte une justification lettrée à leur islamophobie, a trouvé une audience accrue dans le contexte des vagues d'attentats perpétrés par des groupes terroristes se réclamant de l'islam depuis le 11 septembre 2011. Et en fait, ce discours, du coup, s'est banalisé dans l'espace public. Alors, les modèles d'intervention politique des écrivains que j'avais construits de manière idéale typique pour les années 30-40 me semblent toujours d'actualité et il me semble qu'on les retrouve aussi au sein de la droite ultra-conservatrice et radicale, au pôle des notables. Hein, Michel Déon est décédé, mais il me semble qu'Alain Finkielkraut incarne bien cette figure. Au pôle des esthètes, Houellebecq, Renaud Camus, Richard Millet, et au pôle des polémistes, Philippe Muret et Éric Zemmour, Nolo aussi. De nouveau, là, je n'ai pas de figure d'avant-garde. Voilà. Mais là encore, à part Houellebecq, qui développe une stratégie habile pour diffuser des idées islamophobes sous couvert de littérature et sans apparaître pleinement comme un polémiste intervenant dans le champ de production idéologique, ces interventions se situent aux marges du champ littéraire qui continue de tenir en suspicion tout engagement politique trop marqué. Comme je l'ai montré dans « Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ?», dans les cas de Renaud Camus et Richard Millet, on peut faire l'hypothèse que leur politisation et leur investissement de cette posture de polémiste est liée à une trajectoire littéraire déclinante, la provocation étant une stratégie visant à maintenir leur position dans un champ en transformation, pari risqué qui semble avoir eu à terme pour conséquence de les en exclure. Donc, écrivain autrefois adoubé par Barthes, qui préfaça son roman Trix, devenu en livre, un livre culte d'Émile Le Guay, Renaud Camus était un auteur prisé du circuit restreint du champ littéraire, lauréat en 96 pour l'ensemble de son œuvre du prix Amic de l'Académie française, où il fut candidat malheureux en 99 et 2000. Cette année-là, son journal de 94, La campagne de France, publié par Fayard, fait scandale dans le monde des lettres en raison de passages à résonance antisémite. Donc là, on est dans un journal, on n'est pas dans un pamphlet, hein, mais il y a des passages polémiques à résonance antisémite où il s'agaçait notamment de la surreprésentation. Surreprésentation des Juifs à l'émission du Panorama de France Culture. Le champ intellectuel se divise par pétitions et contre-pétitions interposées en faveur de la liberté d'expression d'un côté, contre le droit d'exprimer des opinions criminelles, je cite, de l'autre. Suite à la plainte déposée par la chaîne par France Culture, son éditeur, Claude Durand, se voit contraint de retirer l'édition de la vente pour faire reparaître un volume amputé de 10 pages. Il faut préciser que si Fayard avait récupéré ce journal de Renaud Camus, c'est parce que son éditeur de toujours, POL, n'en voulait plus. Il ne conservait que les romans. Donc, de nouveau, séparation de l'œuvre de fiction et de non-fiction. Il aurait même refusé, dans un premier temps, son roman L'ombre gagne, récit où s'exprime une voix raciste, antisémite et homophobe. Alors, Paulo Tchaïkovski-Lorenz avait d'ailleurs expurgé le précédent livre de Camus, PA, de ces passages litigieux, avec la mention « paragraphe retiré à la demande de l'éditeur ». Claude Durand, lui, ne voyait rien de problématique à écrire que des Juifs ou des musulmans expriment la culture et la civilisation française d'une façon, je cite, « qui lui est extérieure car la pensée n'est-elle pas originée, comme le dit Renaud Camus ». Aux yeux du critique Patrick Échichian, cette manière, je cite, « très vieille France, jusque dans le style de bouter les Juifs hors des frontières de la culture française est proprement inacceptable ». Alain Finkielkraut n'y décèle de son côté que, je cite, « l'égarement d'un écrivain singulier et rare ». Un égarement qui va pourtant suivre le chemin d'une nouvelle carrière politique. Du reste, hormis le mot « race », Renaud Camus avait pleinement assumé ce qu'il avait écrit dans un article refusé par Libération, mais qu'il a lu au colloque de Yale qui lui était dédié en 2001. En 2002, Renaud Camus se porte candidat à la présidence de la République avec le parti de l'innocence qu'il a fondé pour défendre les valeurs de civisme, de civilité, de civilisation, d'urbanité, de respect de la parole et d'innocence. Puis, prenant acte de son échec, il appelle à voter Marine Le Pen pour faire barrage à l'immigration, grosse d'une menace de changement de civilisation, selon lui. Alors, le programme de ce parti, abécédaire de l'innocence, exposait sa pseudo-théorie du grand remplacement, développée dans un ouvrage éponyme, à savoir la substitution des immigrés extra-européens à la population française dite de souche, qui conduit, selon lui, à une grande déculturation. Cette idée que certains font remonter à Barrès a été conceptualisée, on l'a vu, à la fin des années 40 par René Binet. Donc le succès de cette idée remise au goût du jour par Renaud Camus est immédiat ce succès parmi la droite identitaire. Dans son livre auto-édité « Le changement de peuple » paru en 2013, Renaud Camus étend sa théorie à l'Europe, à savoir la supposée substitution des peuples européens dits de souche par des immigrés extra-européens. Il préface aussi un livre de Gérard Pince intitulé « Le choc des ethnies vers le génocide des Français » en 2015. Condamné en 2014 pour provocation à la haine et à la violence contre un groupe de personnes en raison de leur religion, l'islam, il rallie l'année suivante le parti satellite du Front national Souveraineté, Identité et Liberté et préside depuis novembre 2017 le Conseil national de la résistance européenne qu'il a cofondé à Colombey les deux églises, site du mémorial Charles de Gaulle, et qui a pour slogan « Vive la France libre, vive la civilisation européenne ». Donc un détournement évidemment de symboles historiques. Alors si elle l'exclut du champ littéraire, elle lui ouvre une nouvelle carrière internationale. Mais c'est une carrière internationale qui est seulement dans les circuits de l'extrême droite et qui ne va pas bénéficier à son œuvre littéraire, en fait. Alors, vous voyez, il y a un titre de lui en allemand, hein, c'est le seul que j'ai trouvé, c'est « Revolte gegen den großen Austausch » chez Verlag Antaios, qui est proche de l'AFD, et il est traduit par l'Autrichien Martin Lichtmetz, qui est l'auteur d'un livre en 2016 sur l'ethnopluralisme. Donc c'est le pseudonyme de Martin Zemtlich. Et il est collaborateur de Neue Ordnung, donc Nouvel Ordre, donc tout ce réseau que j'ai évoqué auparavant. Alors, ce qui a des échos, un écho, une résonance internationale, c'est sa théorie sa pseudo-théorie du grand remplacement, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, semble-t-il chez les suprématistes blancs, mais encore une fois, ça ne bénéficie pas à son œuvre littéraire. Alors, une telle évolution est sans nul doute un effet du vieillissement social associé à la perte de la reconnaissance littéraire. Entre cet engagement et l'œuvre, il n'y a cependant pas coupure, mais continuité sous forme de radicalisation. Analysant les journaux, chroniques et romans qui ont précédé la campagne de France, Hugo Marsan y décèle une, je cite, « idéologie de la supériorité de l'esthète et un élitisme réactionnaire émaillé d'insinuations racistes et xénophobes ». Son roman de 1994, « L'épuisant désir de ces choses », met ainsi en scène un écrivain dont le manuscrit raciste, Opus Niger, est rejeté par les éditeurs. Son racisme et son essentialisme culturaliste se doublent d'un racisme de classe et d'un racisme de l'intelligence, au sens que Bourdieu a donné à ce terme, vision du monde qu'il partage avec un autre esthète, Richard Millet. Auteur de romans assez confidentiels et d'une série d'essais où, critiquant les tendances actuelles de la littérature nationale et internationale, il laisse par moments transparaître sa conception d'une Europe chrétienne, cet ancien professeur exerçait un pouvoir discret sur le monde des lettres en tant qu'éditeur chez Gallimard, jusqu'au scandale qui lui a valu d'être remercié. En 2012, il publie simultanément « De l'antiracisme comme terreur littéraire » et « La langue fantôme » suivi d'un éloge littéraire d'Anders Breivik. Donc je vais reprendre très brièvement les analyses que j'ai faites dans « Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ?». Donc, si la posture énonciative de ces deux essais les apparente au genre pamphlétaire, et s'il partage bon nombre de thèmes avec des polémistes comme Philippe Muret, en particulier l'idée de la décadence de la culture française depuis mai 68, la désignation de la production culturelle actuelle comme pornographie et la hantise de la perte d'identité avec l'immigration et le multiculturalisme, qu'il définit comme un crime contre l'esprit français, et puis le spectre de l'islamisation de l'Europe, il s'en démarque par le style plus soutenu et épuré, à la fois, donc par une forme d'euphémisation esthète. Donc là, on est bien entre ces deux modèles de polémiste et d'esthète. Ce qu'on appelle littérature aujourd'hui, écrit-il, n'est que la face hédoniste d'un nihilisme dont l'antiracisme est la branche terroriste. Donc c'est ce qu'il déclare en ouverture du premier pamphlet, dans lequel il nie l'existence du sentiment raciste en France, tout en dénonçant l'antiracisme comme une idéologie dominante qui, je cite, « tente de nous persuader que les races n'existent pas ». Se présentant en persécuté, victime de l'idéologie dominante actuelle, il fait de la haine qu'il suscite une marque de distinction qui le conforte dans ses certitudes d'homme blanc, catholique, cultivé, au nom desquels il assène de manière répétitive et quasi obsessionnelle ce qu'il affirme être la vérité. À l'instar des dominants, Millet tend à universaliser les atouts qui fondent sa domination symbolique qui serait menacée par le relativisme culturel. Donc je ne vais pas lire la citation, vous pouvez la lire. Hein, vous ne pourrez pas la lire, désolé. Sur quoi ? Je crois qu'il vient le... On va le laisser... Ah ben voilà, super, merci. Merci. Voilà, donc je vous laisse lire la citation où vous voyez cette universalisation de ces atouts donc qui fondent sa domination. C'est plein écran là ? Voilà, super. Ah non, ça marche pas. Bon, je continue. Hein. Donc son éloge littéraire de Anders, je préfère pas la lire. Hein, donc. Son éloge littéraire d'Anders Breivik porte un regard esthétisant et quasi apologétique sur le meurtre de 77 personnes en Norvège au cours de l'été 2011, dont une majorité d'adolescents qui se trouvaient dans un camp de jeunes travailleurs dans l'île d'Utøya. Millet se dit dans cet éloge d'Anders Breivik, éloge littéraire d'Anders Breivik, il se dit frappé par, je cite, la perfection formelle des gestes de Breivik, hein, dans lesquels il voit une dimension littéraire, au nom du fait que la perfection, je cite, comme le mal, aurait toujours peu ou prou à voir avec la littérature. Donc on s'attendrait à une description esthétisante de la perfection formelle de ses actes, au lieu de quoi suit un rappel purement factuel et plat de ce qui s'est passé. Hein. Puis le soi-disant éloge littéraire tourne non pas en apologie, parce que ça serait une apologie de meurtre, donc là il fait très attention, il a bien dit qu'il n'approuvait pas ce massacre, hein. Mais malgré tout il y a une espèce de plaidoyer en défense, sachant que le texte paraît deux jours avant le procès du tueur. Donc il en fait une victime du multiculturalisme et de la perte d'identité. Hein, je cite Breivik, d'une façon naïve, loin d'incarner le mal, s'est fait le truchement sacrificiel du mal qui ronge nos sociétés, tombées dans une horizontalité acéphale et trompeuse. Et Millet de déceler dans les actes du meurtrier, je cite, une manifestation dérisoire de l'instinct de survie civilisationnelle. Alors la rhétorique qui consiste à rendre les vraies victimes responsables des crimes perpétrés contre elles est familière, les nazis et fascistes de tout poil martelaient à l'envi que les juifs étaient responsables de la Deuxième Guerre mondiale, et cette rhétorique pamphlétaire n'a de littéraire que le style, elle évoque l'esthétisation du politique pratiquée par le fascisme tel que Walter Benjamin l'a défini. On retrouve dans cet essai, comme dans celui qui le précède, dans le même volume, Langue fantôme, les leitmotifs de la rhétorique réactionnaire d'avant-guerre, décadence annonçant la fin de la civilisation, danger que le métissage fait courir à l'essence française et à la pureté de la langue. Il ne parle pas de pureté de la race et se défend d'être raciste, mais il n'hésite pas à réifier le terme de race qu'il emploie pour celui de culture. Ce sont des thèmes qu'on trouve chez Maurras et l'Action française, à ceci près qu'ici, les musulmans ont remplacé les juifs. Le pamphlet de Millet suscita des protestations d'indignation au nom de valeurs universelles, défense des droits humains, antiracisme, refus de tout essentialisme identitaire, égalité des sexes. Il y a deux articles phares hein, que je mentionne, écrits par des écrivains consacrés, Jean-Marie Le Clézio, donc prix Nobel de littérature, et Annie Ernaux, pas encore prix Nobel de littérature, mais peut-être bientôt. Donc tous deux auteurs Gallimard qui donnent le ton. Le Clézio pose la question de la responsabilité des écrivains dans la propagation du racisme et de la xénophobie. Et je le cite, « En France, renaît de ses cendres l'idéologie nauséabonde des années 30 lorsque l'extrême droite, la cagoule, l'Action française faisait le lit du nazisme et préparer la défaite de la France en utilisant la xénophobie et l'antisémitisme. » Et donc, comme il le dit, ce racisme prend désormais le visage de l'islamophobie. Je cite, « La propagande utilise les mêmes termes, les mêmes slogans, les mêmes obsessions, l'invasion des étrangers, la perte des repères chrétiens, la pureté de la race. » Et Le Clézio de s'inquiéter du fait que ces thèmes, je cite, « ces obsessions sont exploitées par une partie de la classe politique et par un nombre grandissant d'intellectuels et d'artistes. » Donc le multiculturalisme est à ses yeux une question déjà caduque, car, comme il l'explique, nous vivons, je cite, dans un monde de rencontres, de mélanges et de remises en cause. Les mélanges et les flux migratoires existent depuis toujours. Ils sont même à l'origine de la race humaine, la seule race, selon lui. Alors, quant à Millet, il n'existe, dit Le Clézio, que par et pour le scandale. Or, demande-t-il, je cite, si Céline est un génie et provocateur, est-il suffisant d'être provocateur pour avoir du génie ? Annie Ernaux a publié donc dans le Monde un article qui exprime, à l'instar de Le Clézio, le dégoût que cette lecture lui a inspiré. Elle décortique la rhétorique perverse du pamphlet qui s'éclaire du premier essai, Langue fantôme, où l'auteur se désole du déclin de la littérature française et de la perte de sa pureté sous l'effet de l'immigration et du multiculturalisme. Et Annie Ernaux récuse fermement cette thèse et conclut qu'il s'agit d'un pamphlet fasciste qui déshonore la littérature. Donc vous voyez, son expulsion du champ littéraire. Cet article a recueilli l'approbation de 118 écrivains, mais a valu également à son auteur des approches pour avoir jeté l'opprobre sur le provocateur. Alors, comme souvent dans ces cas, les défenseurs de Millet ont hurlé à la censure, omettant de dire que cette explication apologétique d'un massacre de masse apparu en toute liberté. Et afin d'affirmer l'autonomie de la littérature, le jury du premier prix André Gide couronne en 2015 le livre de Millet sur Sibelius, publié chez Gallimard, donc tentative de le maintenir dans le champ littéraire, cette réhabilitation toute provisoire ne suffit pas à prévenir la relégation de l'écrivain éditeur déchu au purgatoire des lettres, vouant désormais ce paria, selon ses termes, à subir l'humiliation que longtemps lui-même avait infligée à des prétendants déboutés par son activité d'éditeur chez Gallimard. Une déchéance qui nourrit plus que jamais sa vision crépusculaire de la décadence nationale et celle de la langue française dont il s'érige en martyr dans « Français langue morte » suivi de l'anti-Millet, juxtaposant d'hautaines complaintes sur son sacrifice et la justification lettrée de ses convictions racistes, sexistes, homophobes et anti-égalitaristes qu'il ressasse sous la bannière de l'anti-américanisme. À ceux qui ont tenté de séparer le Millet d'avant contre celui qui s'est perdu, il rétorque « Je n'ai jamais cessé d'être moi-même au sein des inversions orchestrées par le prince de ce monde ». Alors, je ne vais pas parler de Muret et de Nolo, même s'ils se situent sans doute plus dans le champ littéraire que Zemmour, mais je voudrais parler de Zemmour. Donc là, c'est juste un exemple de la rhétorique pamphlétaire de Muret, et qui est très anti-féministe, même misogyne. Je voudrais me pencher sur le cas Zemmour très rapidement, parce que le récit que ces polémistes opposent à l'idéologie dominante transparaît et bien dans son livre Le suicide français et fait écho à ce récit des prédécesseurs. Et en plus, Le suicide français est quand même un livre qui s'est vendu à plus de 400 000 exemplaires, qui a trouvé un écho à l'étranger, et qui est donc celui qui dissémine le plus ce contre-récit. Il me semble paradigmatique, pas au sens de représentatif, mais au sens de cas limite. Donc, chroniqueur au Figaro Magazine, et journaliste à Valeurs Actuelles, écrivain, il a publié 3 romans, on l'oublie, dont Le Dandy Rouge en 99 chez Plon, et 2 chez De Noël, L'Autre et Petit Frère en 2004 et 2008. Il est surtout connu en tant qu'essayiste qui pourfend l'antiracisme qu'il assimile au communisme, le multiculturalisme, le féminisme et le mariage pour tous. Il est l'auteur du Premier Sexe en 2006, donc j'ai trouvé des traductions en espagnol et en italien, où il déplore, donc livre dans lequel il déplore la féminisation de la société. Il est l'auteur aussi de Mélancolie française, vendue à 60 000 exemplaires et couronnée du prix du livre incorrect, et puis du suicide français, donc qui devient rapidement un best-seller, donc qui est paru chez Albin Michel, livre traduit en italien chez un très petit éditeur. Pas en allemand, ni en anglais, pas en russe non plus, mais l'introduction est traduite en russe sur un blog avec 70 commentaires, et le livre est recensé dans la revue « Problèmes de stratégie nationale de l'Institut russe d'études stratégiques », donc c'est lié à l'administration de Poutine. Et puis il y a aussi son article « La guerre de civilisation actuelle se fonde autant sur la géographie que sur l'histoire », qui fait référence dans beaucoup d'articles de presse en Russie. Il est l'auteur de portraits de Balladur, de Chirac, donc ça montre une tentative d'aller vers le pôle des notables, mais il a été condamné en 2011 pour provocation à la discrimination raciale en raison de sa justification sur France O du droit des employeurs, du soi-disant droit des employeurs de refuser des Arabes ou des Noirs. Son couronnement peu après par le prix Richelieu que décerne l'association Défense de la langue française à un journaliste qui aura témoigné par la qualité, je cite, de son propre langage, de son souci de défendre la langue française, a provoqué la démission d'Angelo Rinaldi du jury. L'académicien a exposé ses raisons à Libération. Il dit « Je refuse de présider une association qui récompense, donc légitime, la propagande haineuse d'Éric Zemmour. Je démissionne donc de mes fonctions de président de défense de la Ligue française, défense de la langue française, et quitte totalement l'association ». Et Rinaldi considère que les étrangers stigmatisés par le journaliste viennent majoritairement de pays francophones et illustrent le rayonnement culturel et intellectuel de la langue française dans le monde. Donc sa démission visait à endiguer une radicalisation dans l'air du temps du discours réactionnaire, et elle illustre en fait tout ce qui sépare le pôle des polémistes en fait du pôle des notables. Ah, il me manque une... Ah, je ne l'ai pas mise, désolée. Ah mince, bon. Dans le suicide français, Zemmour construit un système d'opposition qui vise à remettre en cause l'idéologie dominante au nom de valeurs patriarcales qui assuraient selon lui la stabilité et la grandeur de la nation, faisant de la famille la cellule d'une conception organiciste de la société. Donc en fait, j'avais un tableau que j'ai oublié de mettre sur le PowerPoint, donc qui oppose hiérarchie à égalité, patriarcat, donc l'autorité du père sur la famille, de l'homme, sur la famille et de l'homme sur la femme, qui l'oppose au féminisme, qu'il qualifie de matriarcat, et aux minorités, aux droits des minorités sexuelles. Il qualifie son nationalisme de patriotisme, qu'il oppose aux droits humains. Évidemment, il y a une position nationaliste contre l'internationalisme. Il met en avant la préférence nationale, qui est le terme qui cache la xénophobie, contre le droit les droits des étrangers. Il affirme la supériorité blanche contre l'antiracisme et une forme d'universalisme contre le multiculturalisme. Il a une position protectionniste, souverainiste, contre le néolibéralisme, et dénonce la décadence contre l'idéologie et le récit national du progrès, avec évidemment en attaquant les sciences humaines à partir de son point de vue d'essayiste. Alors son récit de suicide français se construit autour de dates qui marquent des événements ayant entraîné la décadence de la France depuis mai 68, constitué un moment fondateur du déclin. Donc là, la chronologie s'ouvre sur la mort du père, hein, le général de Gaulle, qui inspire à l'auteur des sentences prophétiques telles que « La France était en train de mourir, mais ne le savait pas encore ». La série d'événements qui suivent tentent tous à expliquer la dissolution des hiérarchies qui structuraient la nation et la déségrégation qui en résulte. Ainsi, une décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 71 entérine le pouvoir renforcé du Conseil constitutionnel qui fait prévaloir, dit-il, le culte germaniste de l'état de droit contre la souverainiste raison d'État gaulienne, en annulant une loi Marcellin réglementant la liberté d'association au nom de la Déclaration des droits de l'homme qui acquiert le statut, dit-il, de Saintes Écritures, transformant, dit-il, la morale en moraline. Donc la loi Pleven contre la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, adoptée en 72, met selon Zemmour un terme à la liberté d'expression en France, introduisant, dit-il, la subjectivité là où régnait l'objectivité, condamnant l'intention et non le fait, et le passage du racisme à la xénophobie, qui a pour conséquence un principe de non-discrimination entre Français et étrangers qui interdit toute préférence nationale. Hein, voilà. Et donc il y voit la dissolution programmée de la nation française dans un magma planétaire. Alors mai 68 joue dans ce récit le rôle de la révolution dans la doctrine maurrassienne, hein, donc il y a cet événement fondateur qui marque le déclin. De même que Maurras, une des références principales de Zemmour et son disciple Pierre Lasserre, voyait l'origine de cette décadence dans une importation étrangère, le romantisme allemand, introduit en France par Rousseau puis Madame de Staël, et qui féminise la société. Selon Zemmour, l'idéologie dominante qui a détruit les valeurs françaises provient des États-Unis, avec l'idéologie capitaliste néolibérale qui a accompagné l'hédonisme consumériste des femmes et des homosexuels. Donc je cite, le mélange sexuel et ethnique, le métissage, deviendra la religion d'une société qui se veut sans tabou et ne supporte plus les limites de la différenciation des peuples comme des sexes. Cette babélisation généralisée est encouragée par un capitalisme qui y voit une source de profit. Fin de citation. Le père et le mari restreignaient les pulsions consuméristes des femmes qui pâtissent du divorce qu'elles ont réclamé en s'appauvrissant. Car, explique-t-il, c'est la femme qui choisit toujours pour mari un homme au niveau socioculturel supérieur au sien. La domination sociale a chez elle un fort pouvoir érotique. Quand les hommes, eux, sont atteints de l'angoisse de la castration face à une femme d'un statut social supérieur. Les sciences humaines sont rendues responsables du relativisme des valeurs car elles détruisent toute certitude. Zemmour cite une phrase de Lévi-Strauss disant que, je cite, « le but des sciences humaines n'est pas de constituer l'homme, mais de le dissoudre. Or, dit Zemmour, ces hommes déracinés et déculturés deviennent une proie pour le marché qui va en faire de simples consommateurs. » Et selon lui, donc, les publicitaires, sociologues, psychologues s'allièrent aux femmes et aux enfants contre les pères qui détenaient leurs pulsions consommatrices pour imposer de nouvelles normes familiales. Et il évoque l'accès des femmes au carnet de chèques en 65, aussi bien que le plaisir sexuel devenu une exigence rarement assouvie, mais sans cesse réclamée. Alors, la contractualisation du mariage de deux êtres égaux, je cite, méconnaît encore la subtilité des rapports entre les hommes et les femmes, le besoin des hommes, c'est très subtil, de dominer, au moins formellement, pour se rassurer sexuellement, et le besoin des femmes d'admirer pour se donner sans honte. Voilà. Dans ce récit, il insère le livre de Paxton. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est la formation d'une espèce d'espace transnational de lutte autour de lutte mémorielle. Hein. Il insère le livre de Paxton, La France de Vichy, paru en janvier 1973, qui remet en cause la thèse de Robert Aron, selon laquelle le régime de Vichy aurait protégé les Juifs français. Zemmour entend réhabiliter cette thèse contre celle de Paxton sur la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Cette thèse qui s'accorde avec son principe de préférence nationale, la France a sacrifié les Juifs étrangers pour protéger les Juifs français, en limitant les victimes parmi ces derniers. Et évidemment, ça participe aussi du travail de réhabilitation de Maurras, puisque le statut des Juifs, c'était quand même très inspiré de Maurras. Et ça lui permet aussi de blâmer les descendants des Juifs étrangers ayant survécu pour avoir pris leur revanche en imposant une ligne communautariste. Et puis, ça lui permet aussi de blâmer la crainte de la France de renvoyer les immigrés venus du Sud chez eux, parce qu'on on a peur que de raviver le passé de Vichy. Car pour Zemmour, il y a la bonne émigration, celle qui provient d'Europe, je cite, de confession chrétienne, de même culture gréco-latine et de race blanche, précise-t-il en disant paraphraser De Gaulle, et l'autre qui amène le multiculturalisme et conduit à ce, je cite, « rebut désolé et redouté qu'est la banlieue ». Une distinction qui évoque le discours raciste des années 30, proféré par l'Action française et d'autres mouvements d'extrême droite sur les Juifs inassimilables. Ce récit qui se prétend historique est, on le voit, organisé de façon déductive par les principes de décadence qu'il s'agit de montrer à l'œuvre, fin du patriarcat, féminisation, consumérisme, multiculturalisme, auquel il oppose une vision ethno-raciale de l'homogénéité des peuples européens, ce qui permet à son discours nationaliste de s'internationaliser, et de même que l'antiféminisme et la défense du patriarcat. Alors, je vais conclure très brièvement. J'ai montré que les modes d'internationalisation sont liés aux positions occupées dans le champ littéraire et au rapport avec le champ politique. Alors que le pamphlet s'était inscrit depuis Paul-Louis Courier dans le champ littéraire au moment de son autonomisation, par ses liens avec le journalisme littéraire et politique, et alors qu'il pouvait encore apparaître dans les années 30 comme un genre littéraire à part entière au sein du champ littéraire français, la délégitimation de la figure du polémiste à la Libération et la différenciation entre champ littéraire et champ politique et champ journalistique au profit du journalisme d'information exclut le pamphlet du champ littéraire national et transnational. C'est, on l'a vu, par les circuits politiques de la droite radicale que ces textes circulent et sont érigés en référence idéologique et en source d'autolégitimation par ces mouvements eux-mêmes situés en marge du champ politique, mais dont le discours a fortement gagné en visibilité dans l'espace public depuis les années 2000. D'où les tentatives de relégitimer ces auteurs du passé, tels que Maurras, Drieux ou Junger, sur le plan à la fois littéraire et politique. Voilà, alors j'ai parlé que des polémistes de droite, et on peut discuter, peut-être il y aura des communications sur les polémistes de gauche, mais je pense que les logiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, merci de votre attention.